ערב טוב, תודה רבה. Monsieur Eliaou Malé, d'avoir organisé ce cours et me permettre de venir ici au centre Rashi. Merci à Élise Jamais d'avoir été le point de contact pour ce cours et Bezrat Hashem, si cela vous convient, d'autres. J'ai choisi aujourd'hui, Bezrat Hashem, de traiter le thème de la Emouna, qui est très très mal connu. Et vous n'allez pas entendre de ma bouche, si ce n'est que pour vous dire que ce n'est pas cela, la foi. Il faut arrêter avec ces traductions qui n'ont aucun sens au niveau hébraïque, au niveau de la Torah, et de l'essence sémantique même des mots. Tout d'abord, il faut remettre en place la création du monde. Le monde s'est créé sur une base de dialogue entre l'éternel et sa création. C'est-à-dire que toute la création du monde induit un contact entre celui qui crée et l'être créé. Étant donné que le premier homme, Adam Arishon, c'est la création par définition, car l'homme, l'humanité, c'est le centre même de toute la création. Il est normal que le premier homme créé soit donc capable d'entendre la parole de celui qui l'a créé. On appelle cela en hébreu « nevoua », une prophétie. C'est-à-dire que la base de l'humanité, c'est la prophétie. La prophétie, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer demain ou après-demain, ça n'a aucun sens. La prophétie, c'est être à l'écoute du divin qui passe par l'homme les vertus de l'infini pour que ses vertus se dévoilent sur terre. Donc l'homme devient canal, la femme, canal vecteur du verbe divin, des valeurs divines, des qualités divines, pour que ces qualités soient traduites dans le monde de la création, avec un but bien précis, c'est de compléter le monde dans lequel nous sommes, le remplir, car il est vide, il est donc en manque, et c'est pour ça qu'on l'appelle en hébreu celui qui cache, olam, qui veut dire en hébreu ne'elam, caché. Et il faut le remplir de ces valeurs qui lui manquent. Jusqu'au moment où la réalisation de la prophétie se réalisera donc, où Malea Haaret, qui Malea Haaret Dea et Hashem, Kamaim Layam Mechassim. Jusqu'à ce que ce monde soit rempli de la connexion, de la connaissance, dans le sens biblique du terme, des valeurs de l'Éternel. Ça veut dire que toute cette structure est claire, elle est simple, elle est saine. L'homme a compliqué les choses. Asa Elohim et Adam Yashar. L'homme nous a créé droit, avec la capacité d'entendre ses vertus. Vehema, malheureusement, eux, les hommes, bikshu lahem cheshbonot rabim. L'homme a commencé à faire des calculs, des comptes. C'est-à-dire qu'il a compliqué la relation qui était aussi simple et limpide du départ. À partir de ce moment-là, l'homme s'est fermé en fait et il n'est plus capable d'entendre la parole divine, et tout ce qu'il fait à partir de ce moment-là, ce n'est que par rapport à son raisonnement humain qui est limité. Je viens de vous résumer en fait la faute du premier homme, qui était prophète, qui devait donc acheminer les valeurs de Dieu sur terre, et parce qu'il a décidé de descendre de niveau et d'écouter plutôt sa conscience humaine, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance, et non plus l'arbre de la vie, eh bien il est tombé de niveau. Ce qui fait que nous avons tous mangé de cet arbre de la connaissance, de la structure cartésienne, limitée, humaine, et on a perdu en fait le repas de l'infini béni soit-il, ce qu'on appelle Et Pachaim, Et n'étant pas un arbre, ni pour le bien et le mal, ni pour la vie. Est en hébreu, c'est le masculin de Aïssa, c'est-à-dire un conseil. On n'a pas mangé le conseil de la vie, on a préféré consommer le conseil de notre propre système intelligent, qu'on appelle dans le langage de la Torah le serpent. Le serpent, c'est pas un reptile, c'est tout simplement l'intelligence humaine qui a pris le dessus sur l'homme. Donc l'intelligence humaine s'est mise à la place de l'intelligence divine. La prophétie donc a pris un coup et a commencé à diminuer, c'est-à-dire que la nature humaine n'est plus ce qu'elle était. La preuve, il n'y a pas encore de prophète dans cette pièce. Alors que nous sommes tous prophètes en potentiel. Je ne sais pas si vous le savez. Nous avons été créés prophètes, seulement la structure prophétique n'étant pas utilisée, c'est comme un muscle qui s'est atrophié. Et donc pendant 2000 ans, par exemple, si je ne parle que de notre exil actuel, avec le retour maintenant de la Géoula, pendant 2000 ans, nous n'avons pas travaillé ce muscle de la prophétie. Alors, imaginez-vous quand vous ne travaillez pas un muscle de votre corps pendant un mois ou deux, vous devez faire de la rééducation pour que ce muscle revienne à ses fonctions naturelles. Eh bien, vous avez un muscle, nous avons un muscle qui s'appelle le muscle de la prophétie, qui n'a pas été utilisé pendant 2000 ans. Donc il est très malade. Il est tellement malade qu'il a du mal à dire. C'est de là que vient le terme mal à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus véhiculer, on ne peut plus véhiculer la parole divine. On a du mal à dire les choses, et notre problème en réalité c'est un problème de verbe, car l'homme a été créé comme étant celui qui parle, Ruach Memallela, le souffle de Dieu qui devait nous traverser pour que nos paroles soient divines. Eh bien, on est descendu à une parole, intelligence humaine, mais petite, limitée à la structure de l'intelligence de l'homme, mais ce n'est plus du divin. Et on doit revenir, on doit réactiver tout ce programme pour devenir ce que nous avons été prévus d'être. HaKadosh Baruch Hu dit à Abraham à la première rencontre, je ne veux pas que tu sois un petit homme qui étudie et qui fait les mitzvot, c'est pas ça que je te demande. Je veux que tu ailles sur ta terre, une terre bien précise qui elle aussi a des qualités, c'est la terre d'Israël. Et là-bas je veux faire de toi une nation, Ve'esra le goy gadol, qui elle, cette nation, sera capable de dire, de raconter ce que je suis moi, l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes venus en Israël maintenant, c'est notre retour, c'est le commencement de notre véritable travail. Ça fait 70 ans seulement que ce travail a recommencé. En quête de quoi? Des retrouvailles de la qualité intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire la prophétie. Et cette prophétie est en réalité pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dire ce qui va se passer demain ou après-demain, c'est pas ça du tout la prophétie. c'est de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Et donc nous allons créer une société capable de raconter Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est une prophétie de nos sages, les prophètes, Ishaïa, Am, Zou, Yassar, Fili, cette nation, je l'ai créée, je l'ai façonnée pour moi, Li, dit Dieu, pour une chose, Terilati Yassarferou, je veux qu'il raconte mes valeurs. Moralité, nous avons un rôle à jouer dans l'histoire humaine, c'est tout. C'est simple. Et regardez combien on a compliqué les choses. C'est très bizarre parce que la Torah parle toujours d'une manière codifiée. C'est intéressant de voir que le verset que je vous ai cité tout à l'heure, Asa Elohim et Adam Yashar, Vehem Bikushu Cheshbonot Rabim, l'homme a été créé par Dieu droit, et l'homme a commencé à faire des calculs. Très bizarre, le premier roi, lorsque le peuple d'Israël entre en terre d'Israël, qu'il doit combattre, s'appelle Melech Cheshbon. Traduction, le roi des comptes. Et vous l'avez tous battu en restant ici. À chaque fois qu'un juif fait son alia, il se bat avec le roi des comptes. Il est face au roi des comptes. Et beaucoup d'entre nous restent là-bas parce que le roi des comptes les a battus. La Torah est codifiée, Rabotai. Les trois géants qui ont tellement effrayé les explorateurs, ce sont trois géants qui portent un nom. La Torah nous indique le nom de ces géants. C'est bizarre, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir leur prénom? Un s'appelle Achiman, le deuxième s'appelle Talmaï, et le troisième s'appelle Sheshai. Magnifique. Achiman, Talmaï, Sheshai. Sheshai et Talmaï. Un trio sympathique. Écoutez bien ce que la Torah nous dit. Ce sont des géants. Les géants vont faire peur à ceux qui se prennent déjà pour des nains. Car les explorateurs se disent eux-mêmes des sauterelles. Ils s'appellent eux-mêmes sauterelles. Alors les autres les voient comme des poux. Parce que quand toi tu te vois déjà comme une sauterelle, c'est sûr que celui qui te regarde de l'extérieur, tu n'es même pas une sauterelle pour lui, tu n'es qu'un poux. Eh bien, ces explorateurs avaient peur de ces trois géants. C'est la Torah, hein. Ce qui est incroyable, c'est que le prénom de ces géants sont des codes. Achiman, dans le mot Achi, on entend mon frère. C'est-à-dire que le premier géant, quand on arrive en terre d'Israël, c'est des problèmes de mon frère, ma sœur, problèmes sociaux. On a du mal avec la mentalité de ce géant israélien qui ne me dit pas bonjour dans l'ascenseur. C'est un géant, ça me fait peur. Il n'est pas aussi poli, bien il me balance un petit truc, il ne dit pas, j'ai pas l'habitude. Premier géant. Deuxième géant s'appelle Talmaï. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, il y a un problème. Mais quand on étudie la Torah en hébreu, on comprend tout de suite que le mot Tlamim, Talmaï en hébreu, veut dire des sillons de terre. Traduction. Économie. Donc le premier géant était un problème social. Le deuxième géant est un problème d'argent. Talmaï. Incroyable. C'est-à-dire, ceux qui ont peur de venir ici, c'est où? Parce qu'ils ont peur du premier géant, c'est pas ma mentalité, je ne supporte pas. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire pour vivre? Comment je vais vivre là-bas? Deuxième géant. Troisième géant s'appelle Sheshai. Sheshai, la même chose, si vous ne parlez pas l'hébreu, vous avez du mal, mais si vous parlez l'hébreu, Bigdei Shesh, des vêtements de Shesh, ce sont des vêtements de l'armée. Incroyable. Donc, troisième géant, c'est le géant militaire. C'est-à-dire, des problèmes de sécurité. La guerre. Je ne peux pas monter en Israël, j'ai pas envie que mes enfants aillent à l'armée, c'est trop dangereux. Moraï Verabotai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont toujours ces trois géants qui sont en place ici, pour tous ceux qui arrivent. Si vous arrivez à battre ces trois géants et vous dites, je fais partie de ce peuple, donc mes enfants et moi-même, on doit se battre, et je n'ai pas peur de ce roi, de ce géant qui s'appelle l'armée, j'aime cette terre et j'aime Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de venir sur cette terre. Je n'ai pas peur des problèmes économiques. Et s'il m'a demandé de venir ici, eh bien, Be'ezrat Hashem, il va m'aider. Et le troisième géant, si je suis venu sur cette terre, je ne dois pas retrouver la mentalité du pays dans lequel j'étais.
Exactement. Ça y est, je m'en vais. Amen.
C'est très bizarre parce que Abraham Avinu, lorsque Dieu lui parle pour quitter le pays où il était, il lui dit de quitter exactement trois choses. Lech lecha me'artzecha, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est artzecha? Non. Eret. C'est la terre, mais c'est en même temps ta manière de vouloir, car le mot Eretz tire sa racine dans le mot rotse. Vouloir. Donc, je n'ai plus les mêmes désirs. Quitte tes anciens désirs. Quitte ton ancienne terre. Arsecha. Deuxième chose. Umi molad de techa. C'est Dieu qui parle à Abraham. Quitte ton molad. Qu'est-ce que c'est le molad? Une notion de temps. Quand on dit par exemple que la lune, le molad sera à tel jour, donc la naissance, la renaissance de la lune sera à telle date. Donc molad et techa quitte quoi en réalité? Le temps qui t'a donné la vie, donc le sens même des choses, parce que vous savez que la Gemara, dans le traité de Shabbat 75, nous dit que selon le jour où vous êtes né, le temps où vous êtes né, votre programme est différent. Et les gens doivent savoir en réalité ces programmes. Et la Torah nous dit, la Gemara nous dit, Ki hi chokhmatchem u binatchem le'aimé kol ha'amim. C'est ça votre sagesse. Mais malheureusement, on n'étudie pas le temps. On n'a aucune conscience de ce que cela représente. On a l'impression que le temps passe, c'est fini. Pas du tout, il y a des secrets dans le temps. Ça c'est molad etecha. Bet avicha, la maison de ton père, quitte la mentalité, l'ancienne mentalité avec laquelle tu étais jusqu'à maintenant. Tu n'es pas capable de quitter tout cela, et bien tu ne pourras pas être dans ce pays vers lequel je te dis d'avancer. Et tu ne pourras donc pas créer cette nation tant attendue qui est censée dire, proclamer les critères divin. Voilà le programme. Donc je vous propose en fait un retour à la prophétie. C'est grand. C'est grandiose. C'est ce qu'on étudie à la yeshiva où j'étudie et où j'enseigne. C'est Mahomet à Jérusalem. Nous sommes en train de préparer avec toute modestie ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est-à-dire le retour à la prophétie. C'est un programme énorme. Mais c'est un programme qui nous pousse à comprendre ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons été créés de telle manière, de telle matière, de telle structure. Comment est-ce possible que nous soyons capables de traduire les valeurs de l'infini au monde? Pour traduire les valeurs de l'infini au monde, il faut que ma résistance soit énorme. Pour ne pas mourir du contact avec l'infini, lorsque l'infini me traverse, je devrais exploser. Regardez les lampes qui sont ici. Vous demandez à la Makolet, je veux une lampe de 30 watts. C'est quoi 30, 100? Vous dites un chiffre.
Eh bien, le chiffre, c'est le chiffre de la résistance. Si la résistance résiste à 100 forces, eh bien, elle aurait une lumière de 100 degrés. Si vous demandez une lumière de 30, la lumière sera plus petite, mais la résistance ne peut pas tenir plus. Si vous mettez 100 dans une lampe de 30, elle explose. Alors, imaginez-vous la résistance que nous, le peuple d'Israël, nous devons avoir pour faire passer par travers nous la lumière de l'infini béni soit-il. C'est une résistance de combien ? Infini. L'infini. Donc nous sommes fabriqués d'une matière infinie, et c'est pour ça que nous chantons Am Israël Chai, nous ne pouvons pas mourir. C'est impossible. Ça ne fait pas partie de notre programme. Donc il y a des juifs individuellement parlant qui meurent, mais le peuple ne peut jamais mourir. Am Israël Chai, ve Yehudim Metim. Ça aussi, ça va changer. Parce que si vous croyez fermement en la valeur de la vie, au Dieu vivant, la mort elle-même n'est pas naturelle. Car la mort est arrivée dans le monde seulement après la faute du premier homme. Ki veyom acholcha mimeno mot tamut. Sous-entendu, si tu n'avais pas mangé de ce conseil, je vous traduis comme tout à l'heure, de l'arbre de la connaissance bien et mal, vous auriez dû rester vivant. Adam Arichon serait resté vivant. J'ai dit, je suis pas là. Moralité, ça aussi, ça va disparaître, mais c'est un cours à part entière. Alors, qu'est-ce que c'est que la Emouna dans tout ça? Eh bien, la notion de Emouna, il faut la développer. C'est énorme, il faut faire un séminaire au moins de 3 ans pour comprendre la notion de Emouna. Et quand je vous dis un séminaire, c'est à raison de un cours par jour. Donc on a beaucoup de travail. J'ai même pas pu résumer mon cours alors que j'ai écrit une 20aine de pages et je suis à la première ligne de la première page.
Oui, d'accord.
Et je ne vais pas vous coincer toute la nuit, ne vous inquiétez pas. On ne comprend pas ce que veut dire le terme qu'on utilise tellement, Emouna. Il a la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire, il a la Emouna? Eh bien, la Emouna, avant tout, il faut savoir déjà la traduction. Alors, c'est difficile d'étudier la Torah en français, parce que malheureusement, ce n'est pas la langue avec laquelle le monde fut créé. Donc à chaque fois que j'essaye de traduire en fait une notion quelconque en français, je dévie, je déforme, je trahis le véritable texte. Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit « Vayomer Elohim Yehi Or ». C'est différent. Ça veut dire que le Yehi Or, c'est une formule divine qui crée la lumière. Que la lumière soit, ça ne fait rien du tout. Il faut bien comprendre ça. Donc chaque traduction est une trahison. Et malheureusement, nous sommes encore une fois malades du verbe. Ça fait 2000 ans que nous vivons avec des langages étrangers à notre propre structure et culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, votre langue naturelle, celle avec laquelle vous êtes né, naturel, vient du mot naître. C'est français. En Baruch HaShem, je suis né en Israël. Donc ma langue naturelle, c'est l'hébreu. Mais j'ai appris le français pour essayer de guérir les malades que nous sommes. Alors la Torah, étant donné qu'elle utilise le langage du divin béni soit-il, eh bien, elle nous explique ce que c'est que le terme de Emouna. Donc, oubliez complètement votre traduction, la foi. Il a la foi, ça ne veut rien dire. Emouna, c'est en réalité un théour. Comment on dit les ta'er? Une description d'un écoulement d'un sujet quelconque. Parce que la Emouna, ça peut être Emouna pas seulement en Dieu. On peut avoir une Emouna en plein de choses, plein de sujets. Et donc à chaque fois que le sujet en question coule, eh bien on appelle ça de la émouna. Je vais vous donner un exemple. L'homme qui est ma'amin, donc l'homme croyant, encore une fausse traduction, qui ne veut rien dire, c'est pas un homme croyant, c'est un homme qui, pour l'instant, est en train de fonctionner comme un canal par lequel quelque chose doit passer. Donc quand je dis par exemple que je suis ma'amin, que je suis donc croyant, je ne suis pas croyant, je suis en réalité celui qui va certifier, tout simplement par mon être, la chose dans laquelle je suis ma'amin. C'est trop compliqué ou ça va? Ok. Je vous pose une question. Certifier en hébreu, comment est-ce qu'on dit? Les Hacher ou bien les Amen. D'accord? Les Amen et les Hacher, vous avez raison. Regardez la beauté du langage hébraïque. Si je certifie donc, on va utiliser votre traduction, les Hacher. Si je certifie par mon être Dieu, donc animé Hacher, auto. Donc je deviens mais ou char heureux. Le bonheur, c'est pas stam. Le bonheur, c'est d'être celui qui certifie l'éternité par son être. Donc, animé à chair, traduction, animé au chat. Je suis heureux. Donc, le bonheur, c'est tout simplement une mesure de certification de l'éternité. Plus tu certifies l'éternel par ta vie, plus tu es heureux. Pourquoi je vous ai dit les Amen? Vous m'avez dit les Hacher. C'est la même chose. Mais en réalité, la racine, c'est les Amet. Les Amet, en hébreu, certifié. Les Amet, Emet. Je vais vous donner une petite règle en hébreu. D'accord? On apprend, on fait un petit tulpan. Un garçon se dit Ben. Ok? Une fille se dit non. Ben. Ben, ben, c'est pas de l'arabe, c'est de l'hébreu. Ben, ben. Seulement il y a une règle grammaticale en hébreu, le noun au milieu d'un mot tombe. Alors au lieu de ben, ça devient bat. C'est pas de l'arabe. Les arabes ont gardé le ben. Binti. Alors qu'en hébreu c'est biti. Donc on enlève le noun. On va faire le même jeu avec amen. Amen. On enlève au féminin Amen. On enlève le noun, ça devient Emet. Donc le mot Amen au féminin, c'est la vérité. Donc à chaque fois que vous dites Amen, c'est comme si vous certifiez. Et d'où l'importance de dire Amen, et c'est encore plus important que celui qui fait la bracha. Gadol ha'one Amen, yoter min ha'mevarech. Gemara brachot. Moralité, je dois certifier les choses dans ma vie. Donc, je traduis, je réalise, je rends réel, je réalise, les Amet, Emet, quelque chose. Du plus profond vers l'extérieur. Ok? Je traduis donc une notion très profonde en une notion réelle que je peux toucher, que je peux palper, que je peux vivre à l'extérieur. Par exemple, je veux entraîner une équipe de football. Qu'est-ce que je fais avec les joueurs? Je suis mes Amen. Imounim. C'est la même racine que le mot Emouna. Oui. Donc qu'est-ce que je fais à ces jeunes? Je leur mets une kippa et des teilim dans les chaussettes? Non.
On certifie leur qualité.
Je certifie leur qualité. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec certaines qualités de la maison, ils sont nés avec certaines qualités, et moi, comme entraîneur, comme méamène, je vais essayer de leur faire sortir toutes les qualités qu'ils ont à l'intérieur pour qu'ils les réalisent sur le terrain de foot. Si j'arrive à faire ça, je suis un bon méamène. D'accord? Donc, je suis méouman, pas de ouman, méouman. C'est-à-dire entraîner. Donc un bon immun, un bon entraînement, okay, c'est tout simplement sortir le jus intérieur que j'ai et je vis selon ce jus intérieur. Donc un homme d'Israël, une femme d'Israël, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être ma'amin. Donc c'est pas qu'elle a la foi ou tous ces mots qui ne veulent rien dire. Maintenant, chaque fois que vous allez dire un ima'amin ou bien une femme un ima'amina, traduction, je certifie. Ah, c'est autre chose. Je veux bien te vérifier si tu es certifié conforme à ce que tu es au départ, c'est-à-dire à ce que Dieu a prévu que tu sois. D'ailleurs, comment on dit en hébreu certifié conforme? Ne'eman lamakom. Incroyable, c'est la même racine, Ne'eman emuna. Donc je suis certifié conforme à la source de la chose. Un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement sortir sur une œuvre ce qu'il a à l'intérieur de son âme. Donc ça s'appelle Omanut Emuna. Donc il est Oman. C'est la même, les trois lettres du mot Amen, on n'a pas bougé encore, Rabotai. Donc il va jouer d'un instrument de musique, il va mettre son âme au service du monde, par les accords de son piano, de sa guitare, et peu importe qui joue. Donc il va certifier son être et sa émouna par la guitare, par le chant, par l'écriture, par la danse, par des toiles, des tableaux. Par exemple. Moralité. Pour ceux qui ne savent pas, hein. Leït Amen, donc s'entraîner, c'est quoi? Mais c'est être assis pendant 30 ans dans un studio et sortir des toiles et des œuvres, de plus en plus les œuvres proches de ce que tu es dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un jeune artiste, il va un petit peu trahir, il va un petit peu mentir, il va un petit peu fausser. Il ne peut pas traduire totalement parce qu'il y a encore des embêtements, des empêcheurs d'avancer. Comment on dit embêté en hébreu? Léafria, racine du mot, paro. Paro, c'est pas le pharaon, n'importe quoi. Paro, c'est la racine du mot, l'embêteur numéro un. C'est-à-dire, chaque fois que vous dites paro, c'est celui qui vous embête. Et qui vous cloue dans une prison. Misraim veut dire Meissar, prisonnier. Donc le roi du prisonnier, c'est l'embêteur numéro un. Paro. Incroyable. Vous voyez? On n'a pas le droit d'étudier la Torah autrement qu'en hébreu parce qu'on ne comprend rien. Léafria, c'est la racine du mot paro. C'est terrible. Et comment est-ce qu'il nous embête? Il nous dit toujours, mais t'es crevé, t'es fatigué. Tu te lèves le matin, tu es déjà mort de fatigue, tu n'as même pas pu dormir, même si tu dors, tu te réveilles fatigué. Donc tu es toujours, toujours en position couchée, c'est notre position préférée. Dès qu'on a un lit, tac, c'est fini. Quelle est la racine de la fatigue? La poussière. Comment on dit la poussière en hébreu? Afar, la même chose, la même racine que le mot paro. Donc on nous pousse vers la paresse, vers le tomber, vers la lourdeur, vers... et tout est bon pour te dire, t'es mort, t'es crevé, ne fais rien. Aujourd'hui il fait chaud, demain il fait trop froid, et après demain j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Je vous pose une question très simple. Réfléchissez bien. En quoi j'ai le plus de émouna dans la vie? En Hachem, magnifique. Halvaï. Il y a fait mes en moi-même d'abord. La preuve, c'est que je certifie ma vie. Tout en étant ici, voilà, je vis, donc je certifie ma vie. Ça veut dire que la chose la plus naturelle, c'est de se vivre soi-même. Vous êtes déjà parti, comme bons religieux que nous sommes, Hachem. Alvaï de certifier Hachem. D'abord, essaie de te certifier toi-même. Tu peux certifier l'infini? On prie pour ça tous les jours. Déjà, nous-mêmes, nous ne sommes pas fidèles, en hébreu, Néhéman, à nous-mêmes. C'est-à-dire, le plus grand infidèle du monde, c'est toi-même. Le plus grand infidèle. T'as qu'à te regarder dans le miroir et tu verras tous les matins quelqu'un que tu n'es pas. Mais tu joues à être, à te déguiser, à paraître. Si on était nous-mêmes vraiment, on aurait été à un autre niveau à Botaï. On est tous en train de jouer dans un grand théâtre de la vie. Chacun joue des rôles. À tel point qu'on n'arrive même plus à se définir en tant que ce que je suis, mais en tant que ce que je fais. Incroyable. C'est-à-dire, au lieu de téléphoner à quelqu'un et de dire « Shalom, je m'appelle Yoel », je dis non, « Shalom, je suis artiste peintre ». Mais on s'en fiche complètement que tu sois artiste peintre. D'abord, dis-moi qui tu es. Et dans notre yeshiva au Machon Meir, quand un élève tape à la porte, on lui dit « Quelle misère ». Et s'il répond « Tali Mikita Bet », c'est-à-dire un élève du Shiur Bet, pas qui t'abête des enfants, on ne lui ouvre pas. Et il retape. Et dit misé, Talmid, Mishiur Bet. On n'ouvre toujours pas. Au bout de 4-5 fois, peut-être qu'il comprend. Misé, Mishalom de David. Ah. Je t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie. Je t'ai demandé ce que tu es d'abord. Qui tu es. Et c'est ça notre problème. Donc la plus grande malédiction du monde, c'est quoi? De ne pas être fidèle à soi. À soi, pas à Dieu. Laissez Dieu de côté pour l'instant. Arrêtez d'être religieux. Et c'est la Torah qui le dit. La plus grande des malédictions, c'est « Velota amin de chayecha ». Chas v'shalom dans les klalot, dans la Torah. Tu ne croiras plus en ta propre vie. C'est-à-dire que tu n'es jamais content. Ba boker tomar miye aerev, ou ba aerev tomar miye boker. Le jour tu veux la nuit tu veux le jour, l'été t'as trop chaud, l'hiver t'as trop froid, tu n'es jamais content. Donc en réalité, il y a des différences de certification. Donc des différences de émouna. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont assises ici, elles ont une émouna différente les unes des autres. Chacun se certifie différemment. Les gens qui certifient plus du tout, ils sont morts. C'est comme ça que ça marche. Plus tu certifies, plus tu es vivant. Quelqu'un qui est fatigué, je le rentre maintenant dans un centre d'entraînement, il va sortir de l'entraînement, alors qu'il est crevé maintenant, il va sortir de l'entraînement en forme. Incroyable. Il va se sentir bien, même s'il a transpiré, même s'il est fatigué, il va se dire, waouh, je me sens bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait circuler en lui des éléments de vie. Donc ce qu'on appelle la émouna. Donc il a été à un imoun, à un entraînement, et il est sorti méouman. Plus vivant qu'avant. Alors qu'avant il était crevé. Et si tu lui dis va dormir, il va se réveiller un tout petit peu plus fatigué que ce qu'il est parti avant de dormir. Mais si tu le pousses à s'entraîner, paradoxalement, il va être en forme. Pourquoi? Parce que la émouna, c'est justement faire circuler les azrim, zerem, un courant, qui va circuler pour arriver à toutes les parties de ton corps. Par quel moyen? Le sang. Donc le sang est un véhicule qui va porter les éléments de vie à toutes les parties de notre corps. Eh bien, le sang du monde, c'est Israël. Et Dieu va faire passer tout le courant divin par le sang qui s'appelle Israël à toutes les parties du corps, c'est-à-dire à toutes les nations du monde. Voilà le rôle d'Israël dans le monde. Moraï Verabotaï, c'est un travail énorme. Énorme. Et si on refuse de travailler, alors tenez-vous bien, ça aussi, ça fait partie du mot Amen, mais juste en inversant les lettres. Comment on dit refuser en hébreu? D'accord, mais en utilisant le mot Emouna Amen. Non, ça c'est Iemoun, mais je refuse en hébreu. Ali, Mema'en. Lema'en. C'est-à-dire au lieu de les Amen, je suis les Ma'en. Je ne veux pas que ça passe par moi. Vous connaissez, mais vous le connaissez en chanson. Rachel, Rachel, Mevaka, Mevaka al-Banea, Me'ana lehinachem, Me'ana, elle refuse de se calmer. Me'ana. Donc le mot Amen devient Ma'an, Me'en, Me'en, l'autre. Incroyable. Donc si tu n'es pas Me'amen, si tu ne certifies pas et tu bloques la certification, eh bien le Zerem, le flux, ne passe plus par toi. Vous comprenez comment tout est lié, je ne suis pas encore, j'ai même pas commencé mon cours, je suis en train juste de vous traduire trois lettres. Trois lettres. Ribono shel olam, trois lettres. Regardez la richesse du langage hébraïque, c'est extraordinaire. Et c'est pas terminé. Ça veut dire que plus je suis donc le certificateur en question, ou le certifiant, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous comprenez, eh bien plus je suis vivant. Donc, tzadik be'emunato yichye. Vous connaissez tous. Maintenant, traduisez-moi. Le tzadik par sa emuna, pas par sa foi, attention, hein. Il est vivant. Donc pourquoi le tzadik est vivant? Parce que toute sa journée, il passe à quoi? À faire circuler et à réaliser Dieu sur terre. Donc il est beaucoup plus vivant qu'un autre. Alors que le rachat, qu'est-ce qu'il fait le rachat? Rachat, c'est trois lettres. C'est les initiales en hébreu. Rasson, Shel, Atmo. Rachat. Ça veut dire le rachat, c'est tout simplement, tout commence par lui et tout se termine par lui. L'égoïsme par excellence. Moralité, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt tout seul. Parce que le flux ne passe pas. C'est incroyable. Et regardez ce que dit la Agada de Pessah, vous le dites. Mais encore une fois, on lit vite parce qu'on a, d'abord on ne comprend pas. On a vécu 2000 ans en France. Et en plus de ça, parce qu'on a faim. Donc la Agada, allez, Tagit, Agada, des Dalton, ça devient la Agada des Dalton. Tagada, Tagada. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité le rachat dans la Agada? Comment on le traite le rachat de la Agada? Comment on le définit? Comment on le définit le rachat? Les fiches aussi et atmo, mais aklal. Kafar baikar, c'est devenu un kafar. Non, c'est pas. Okay. Pour faire, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est sorti du tout. Il ne voit plus le jeu. Il ne voit plus le monde. Il ne voit que lui. À chaque fois qu'il est dans n'importe quelle situation, combien ça va me rapporter? Qu'est-ce que tu me donnes? C'est ça le rachat. C'est pas celui qui mange pas cachère ou autre chose. Ça a encore une autre définition. Mais nous, on est tombés dans plein de traductions qui nous viennent de la chrétienté, malheureusement. Et tout notre langage hébraïque a été dévoyé, déformé complètement. D'ailleurs, sortir du rail, donc dévier, comment on dit en hébreu, listos, d'accord, racine, Satan. Satan, c'est pas le Satan, pas avec des cornes et une course du Club Med. Le Satan, c'est tout simplement une force déviatrice. Déviant, qui te sort du rail, du yachar. Vous voyez, tout est déformé complètement. Et quand j'enseigne le Siyata d'Ishmaïa avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu à mes élèves, je leur enseigne les racines de l'hébreu pour qu'ils comprennent d'abord de quoi ils parlent. Donc la plus grande difficulté, c'est être ma'amin, En qui? Non.
En soi, c'est naturel. Mais déjà, on n'arrive pas à le faire.
Mais la plus grande difficulté, c'est l'Amin Bachem.
C'est avoir une certification d'Hachem à travers mon propre être. Est-ce que Yoel certifie Dieu dans sa vie? Voilà la question.
Alors, il certifie Yoel, on va dire, à 80%. Il essaye.
Alvaï.
Mais certifier Dieu, certifier l'infini,
c'est extraordinaire, c'est pas possible.
Pas évident. Un homme, la Torah, elle dit, Vehemin Bachel.
Qui c'est? Abraham, c'est marqué dans la Torah, Bereshit.
Vehemin Bachel. Il a tellement eu la certification de Dieu dans sa vie, Abraham,
que Dieu a marqué Vayershevea lo letzdaka. Dieu a considéré que c'était en réalité une bonté d'Abraham d'avoir pu être le canal de Dieu à travers sa vie. Extraordinaire.
Je fais circuler Dieu par mon être.
C'est-à-dire quand je marche dans la rue, on voit Dieu qui transpire par moi. C'est-à-dire que je dois être en réalité quelqu'un de très correct.
Je dois être quelqu'un de très aimable.
Je dois être quelqu'un qui paraît propre. Je dois être quelqu'un qui parle proprement. Je dois être quelqu'un qui mange proprement. Je dois être quelqu'un qui sent bon. Je dois être quelqu'un...
Je peux jusqu'à demain. Hein.
C'est-à-dire si ton rave n'est pas de cette matière-là,
nous chachamim nous disent,
il me rafra et il n'en domme les malach Hashem sevaot.
Tu peux pas étudier la Torah de sa bouche.
Incroyable. Ça veut dire que le Rav doit être un représentant de Dieu sur terre. Vous savez la responsabilité que c'est? Alors oubliez votre Rav maintenant.
Nous tous, nous sommes le Rav de l'humanité.
Donc on doit être beau, on doit être intelligent, on doit être riche, on doit être...
Et c'est pour ça que vous êtes venus ici, pour enrichir cet état.
Il faut que l'État d'Israël, dans les 10, 20 années prochaines, devienne le pays le plus riche au monde. C'est comme ça qu'on va être au niveau de l'écoute, que les nations vont vouloir nous écouter, nous entendre, parce qu'on aura une place. Sinon, si on est paumé, si on est chétif, si on est maladie, personne nous écoute.
La Torah du Misken ne passe pas, nous disent les Chachamim.
Tu dois être grand, tu dois grandir, tu dois être à la hauteur que tu mérites d'être pour qu'on t'écoute. Vous voyez ce que vous êtes venu faire ici, Rabotai? Alors vous allez me dire, mais nous, comment on est? C'est pas grave, vos enfants. Vos petits-enfants. On est venu pour eux, on n'est pas venu pour nous.
C'est eux. Eux, ils sont beaucoup plus sains. Pendant que je vous parle en français, ils comprennent même pas ce que je vous raconte.
Il parle moi normalement.
Tu sais pas parler l'hébreu, t'es malade?
Vous comprenez que tout ceci est un programme énorme, Rabotai. Énorme. Et dans les cours que j'essaie de donner avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'essaie de faire passer ce programme-là. Avant de rentrer dans les petites nuances de chaque chose, ça on peut faire, ça on peut pas faire. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas seulement des livres de loi.
Vous avez emprisonné les gens avec t'as pas le droit, c'est pas clair, t'as des nerveux religieux, maladifs.
Arrêtez. La Torah, c'est vivant, c'est beaucoup plus grand que ça. Et même quand tu veux dire à quelqu'un que ça, c'est pas bien, c'est différemment, c'est pas nerveusement, on dirait un malade.
T'as pas fait ici là.
On est devenu obsessionnel parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. Tu fais une petite erreur, tu jettes tout le truc. Tu sais même pas que c'est cachère encore parce que t'as peur, tu ne connais pas la halakha. Alors pour ne pas prendre de risque, allez en balance. Koach dehetera adif, les chachamim nous disent dans le Shulchan Aruch. C'est beaucoup plus difficile de rendre cachère quelque chose, de dire, allez, c'est pas cachère, jette-le.
Un vrai rav trouve comment autoriser la chose. La même chose pour les femmes avec des taches. Une femme, elle voit une tache un petit peu marron, elle se dit, ça y est, c'est tamé, pas du tout. Pourquoi tu t'interdis à ton mari? Tu sais même pas, toi, les couleurs du sang qui interdisent. Pourquoi tu fais ça? Si tu n'as pas un maître à côté de toi qui te dit, mais c'est pas ça, ça c'est pas un sang impur, c'est dommage, t'as raté encore 3 jours avec ton bonheur, avec ton homme. Déclare si ça marche. J'attends un soir pour un mois entier pour un petit soupir. Faut arrêter, Rabotai, on ne vit pas notre nature. On a perdu la nature, on est devenu malade. Et la plupart de gens divorcent à cause de tout ça. Je reçois des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils ne savent pas vivre leur judaïsme normalement. Tout est devenu nerveux. Il y en a qui se disent, on va plus revenir. Et il y en a qui disent, quand est-ce qu'il revient? Alors comment est-ce que... Vous avez des questions? Et c'est moi, je vous ai donné la possibilité, ça y est, c'est fini, je suis mort, je suis foutu là. Rien. Ça fait partie de mon cours, mais il est tellement long que c'est plus un cours. C'est un long. C'est des jeux de mots, c'est pas grave. Bon. Comment est-ce qu'on peut être un canal pour l'infini, béni soit-il? Je vous pose la question. Enfin, il faut travailler nuit et jour, non? Non. Tout simplement, on a été créé comme ça. On n'a rien à faire. Dieu nous a créé comme ça, c'est tout. C'est ce qu'on appelle une sgoula. Dieu a fixé dans la structure de notre neshama et de notre corps d'être capable de recevoir et de faire passer, d'être des conducteurs de sa lumière. C'est comme ça que nous avons été créés. Ashreahav shekachalo. Heureux le peuple qui a été créé de cette manière-là. Seulement, c'est une responsabilité. À partir du moment où tu es capable de faire traverser par ton être la lumière divine et que tu ne le fais pas, on va venir te demander des comptes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un petit peu nuit dans le monde, à chaque fois que le monde est en dépression, qui on va venir frapper? Israël, parce qu'il est le conducteur de la lumière divine et comme il ne fait pas son travail, le monde va mal. Vous comprenez comment ça marche? Et intuitivement, les nations du monde, à chaque fois, elles viennent taper chez nous, en nous disant, vous ne faites pas votre travail. Exactement comme quand vous avez une coupure d'électricité à la maison, vous allez où? Au compteur. Le compteur, c'est Israël. Nous sommes le compteur du monde. Donc nous avons une responsabilité extraordinaire, c'est-à-dire de plus forte que l'ordinaire, pour en réalité remplir ce monde de tous ses manques. Et voilà notre travail. C'est-à-dire à chaque fois que je fais passer par moi, donc maintenant le terme est Emouna. Donc à chaque fois que vous êtes Ma'amini, vous certifiez l'infini. Et qu'est-ce qui se rajoute dans le monde? Eh bien tout ce que le monde manque. C'est-à-dire la santé, c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la tranquillité, c'est-à-dire la délectation, c'est-à-dire la bénédiction. Tout ça, vous voulez tout ça? Eh bien, tout ça, ça ne peut pas venir autrement et d'autre part que de Dieu lui-même, que le donneur de la vie et de tout ça. Donc à chaque fois que vous êtes lié à cette lumière divine, c'est ça que vous faites traverser par votre prisme. Et si vous êtes rivé à ce travail-là, et que vous avez compris cette responsabilité, alors c'est sûr que le monde va devenir de plus en plus beau. C'est sûr que le monde va devenir de plus en plus parfumé. J'emploie ici un terme du Rav Kook, Alav HaShalom. Nous devons parfumer le monde. Le monde doit avoir une odeur nouvelle, comme le jardin d'Éden duquel nous avons été renvoyés. On a été renvoyés du jardin d'Éden. Et tout notre but dans la vie, c'est de revenir vers ce jardin. Et Baruch HaShem, vous avez déjà fait votre premier pas en revenant ici.
D'accord. C'est ici que ça se passe. C'est ici que vous pouvez commencer à travailler.
C'est par ici, par ce chemin-là, par ce lieu-là, que nous pouvons remplir tous les vides de l'univers. C'est impossible de travailler en tant qu'individu juif. On ne peut travailler qu'en tant que peuple. Et un peuple n'est pas un peuple s'il n'est pas sur sa terre. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, on ne lui demande pas d'être un grand sadique. Je ferai de toi une nation, un peuple. C'est seulement comme ça que la suite du verset est possible. Vénivrechou befrakol mishfechot ha'adama. Toutes les familles de la terre seront liées et bénies par toi. Parce que tu es un peuple sur sa terre. Rabota est la terre d'Israël, c'est le plus grand cadeau qui correspond à notre nature, le peuple d'Israël, et qui correspond au temps dans lequel nous sommes en train de réaliser tout cela. Il y a beaucoup de choses à développer, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. Toda Rabba.